C'est en écoutant le dernier chant tantôt là, que j'ai réalisé une grande vérité. Que c'est comme si cette vérité-là était là, je le sais, mais c'est comme si j'ai catché quelque chose de plus en chantant le chant. Quand il dit le chant, « Je désire entendre ta voix, je désire écouter ton cœur, recevoir ta parole, ta pensée, ta volonté. » Puis souvent, quand on chante ce chant-là, c'est comme si on a l'idée, « Ah là, Dieu va me parler pendant que je suis en train de louer. » Mais en réalité, dans le fin fond, dans le plus concret, le Seigneur avait déjà donné sa parole, sa pensée, sa volonté. À quel endroit que c'est ça?
Dans la Bible.
Dans la Bible. La parole de Dieu révèle déjà sa parole, sa pensée, sa volonté. Puis si on dit, Seigneur, je désire entendre ta voix, la plus grosse des ouvrages que le Seigneur fait pour parler à nos cœurs, c'est toujours quand on entend la parole de Dieu, la Bible. Quand on entend des messages prêchés à l'Église, quand on entend des messages prêchés lorsqu'on est réunis dans un groupe vie, dans une cellule maison, qu'on entend, quand on lit la parole de Dieu tout seul chez nous, chaque fois qu'on penche nos regards dans la Bible, on est en train de laisser Dieu nous parler. Le contraire de ça, ça serait, chaque fois qu'on néglige de lire la Bible, c'est comme si on se ferme les oreilles au cœur de Dieu, à qu'est-ce que Dieu aimerait nous révéler. Chaque fois qu'on néglige de s'approcher de lire la parole de Dieu, c'est comme si on dit au Seigneur, je ne me tente pas de t'écouter aujourd'hui. Ça ne me tente pas d'entendre quelque chose de ta part. Mais en méditant ce chant-là, quand on le chantait tantôt, je désire entendre ta voix, écouter ton cœur. Mais c'est ça que ça me dit. Ça me dit, il faut écouter les messages quand ils sont enseignés. On est en train d'écouter la voix de Dieu. Avec toutes ces explications qui sont données d'une manière claire. C'est vraiment du concret. C'est sûr, des fois, le Saint-Esprit, pendant qu'on est en train de louer, peut nous donner une parole prophétique. Oui. Mais la majorité de toute notre vie va être basée sur les révélations de la parole de Dieu. C'est là qu'il est le plus concret d'écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, la méditation que je vais apporter, c'est sur... c'est encore dans le sens de la prière. Mais dans l'idée de persévérer dans la prière pour la puissance de Dieu, pour obtenir la puissance de Dieu. Le premier verset que je vais vous lire, c'est dans Joël 2:28. Ça, dans Joël 2:28, c'était dans l'Ancien Testament, c'est une promesse qui avait été dite là, des centaines et des centaines d'années avant que Jean-Baptiste vienne, ou avant que Jésus vienne, des centaines et des centaines d'années, qu'il y avait eu une promesse que Dieu était pour répandre son Saint-Esprit sur toute la terre, sur toute chair, puis qu'il était pour faire une œuvre, pour convaincre les gens au niveau de connaître Dieu, de connaître Jésus, son Fils, son Esprit pourrait manifester sa puissance, puis qu'il y aurait des signes, des prodiges, des miracles qui se produiraient sur la terre. Cette promesse-là, dans Joël 2, au verset 28, ça disait, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. » Ça, là, c'est une super de grandiose promesse que Dieu a faite dans l'Ancien Testament pour nous dire qu'il voulait partager une part de lui-même sur les gens de la planète. Parce que Dieu, là, quand il regarde aller sa création, que tout le monde marche charnel depuis Adam et Ève, quelques-uns marchent par la foi, mais l'ensemble de l'humanité qui marche dans leur chair, dans leur convoitise, dans leur péché, puis que ça déplaît à Dieu, ça l'offense Dieu, Dieu est irrité, Dieu il revire à l'envers de voir comment la méchanceté de l'humanité, comment est-ce que ça tourne dans le monde, puis toute la violence, puis les crimes qui se commettent. Mais Dieu, il avait quand même en réserve une promesse extraordinaire, celle de venir habiter dans les cœurs de certaines personnes. Puis il avait décidé depuis le milieu quelques mille ans après, de dire par un de ses prophètes qui s'appelle Joël, d'annoncer que Dieu avait un plan pour faire que son Saint-Esprit puisse descendre sur la terre puis commencer à agir sur toute chair. Agir sur toutes les gens, que ce soit d'une classe de gens normaux ou que ce soit même des serviteurs et des servantes dans une maison, Dieu a l'intention d'agir sur toutes les classes de la société. Ça, là, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus grand et de plus merveilleux dans ce monde. C'est pas de posséder les biens de ce monde, c'est pas d'avoir un gros compte de banque, c'est pas d'avoir une grosse famille. C'est d'avoir la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Ça, c'est la promesse la plus grandiose de Dieu, qui donnerait la possibilité à certaines personnes qui ne le méritent pas de pouvoir recevoir premièrement le pardon des péchés et ensuite recevoir l'Esprit Saint qui viendrait habiter en eux puis qui pourrait les habiter au point de les diriger, de les conduire, de les enseigner puis de se manifester à travers la personne pour manifester des signes, des prodiges et des miracles. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a certaines personnes qui l'avaient vécu, ça. Tu regardes des prophètes dans l'Ancien Testament, il y a Élie, le prophète Élie, il a manifesté de la puissance de Dieu, à travers de lui, il y a une personne qui a été ressuscitée, il y a des personnes qui ont été guéries, il y a des personnes qui ont vu la multiplication de l'huile dans le vase. Mais le prophète Élisée aussi a eu plein de miracles. Il a frappé l'eau lui aussi, puis l'eau s'est retirée, puis il a marché à sec à travers l'eau, pareil comme Moïse a fait avec le peuple juif. Mais le prophète Élie l'a fait, le prophète Élisée l'a fait. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu des miracles de la part de Dieu. Mais Dieu offre encore la possibilité aujourd'hui à ceux qui le veulent de pouvoir goûter la présence de l'Esprit Saint, mais pas juste sa présence, que sa puissance puisse agir à travers de leur chair, à travers de leur vie. C'est une promesse qui a été annoncée voilà 4000 ans, 3000 quelques années, puis est encore valable aujourd'hui. À un moment donné, un petit peu plus tard, après que cette promesse-là était annoncée, il est paru quelqu'un qui s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, là, il est envoyé par Dieu, le Père, pour venir préparer le chemin du Seigneur. Ça, on l'a déjà entendu, on l'a entendu souvent, qu'il était la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Mais Jean-Baptiste, il n'a pas juste préparé le chemin du Seigneur. J'ai réalisé ça en faisant cette étude-là. Jean-Baptiste, il est venu aussi pour annoncer la venue du Saint-Esprit qui avait été promis dans Joël. Parce que dans Luc, au chapitre 3, verset 16, c'est Jean-Baptiste qui est en train de prêcher. Jean-Baptiste, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. » Mais il vient, en parlant de Jésus, celui qui est plus puissant que moi. Puis je suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Là, il parle de Jésus, là. Lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Jean-Baptiste, suite au début de son ministère, en commençant à prêcher aux gens, il prêchait qu'il viendrait quelqu'un après lui qui serait plus grand que lui, puis que même Jean-Baptiste, dans toute sa grandeur, parce que tout le monde allait à lui, c'était un personnage important. La Bible dit que dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a pas un qui est aussi grand que Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste, quand il s'est présenté au monde, il a dit, il vient encore quelqu'un encore plus grand que moi. Puis il dit, lui, il va vous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Fait que Jean-Baptiste, il était point qu'en train de présenter Jésus, il est en train de présenter Jésus, il est en train de présenter Jésus qui offrirait le Saint-Esprit. Fait que Jean-Baptiste ne veut pas, il est en train de préparer le monde à la réception du Saint-Esprit. C'était dans le but d'accomplir la promesse de Joël qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Suite après ça, quand Jésus est paru, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui va vous sauver, mais c'est lui aussi qui va vous baptiser du Saint-Esprit. » Jésus, après ça, quand il a commencé son ministère, Jésus aussi enseignait. La Bible dit que Jean-Baptiste, il a été mis en prison, puis il a été mis à mort, mais Jésus, là, il a commencé son ministère. Jésus prêchait le royaume de Dieu en disant que de se repentir, puis que le royaume de Dieu était proche. Puis Jésus, dans ses enseignements, on va aller voir un verset dans Jean 16, Jean chapitre 16, le verset 13. Jésus est en train d'annoncer quelque chose qui était pour arriver dans pas long. Qui serait une promesse de l'Ancien Testament qui était pour s'accomplir. Jésus parle du Saint-Esprit qui était pour être distribué. Jésus a dit, dans Jean 16 au verset 13, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera pas de lui-même, mais dira de ce qu'il aura entendu, puis vous annoncera les choses à venir. » L'accomplissement de la promesse de Joël était sur le bord d'arriver. Ce que Joël avait prophétisé, que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et les jeunes gens des visions, sur ses serviteurs et ses servantes, qui étaient pour répandre son esprit. Jésus, quand il était sur la terre, il parlait à ses disciples, puis il dit, lorsqu'il va être arrivé le Saint-Esprit, lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Ben, Jésus avait une mission à faire, d'annoncer que le royaume de Dieu est proche, d'amener le monde à la repentance, mais de préparer le monde à la réception du Saint-Esprit. Là, Jésus a donné une autorité et un pouvoir à ses disciples. Tant que Jésus était sur la terre, les apôtres avaient une puissance, une autorité sur les démons, une puissance, une autorité qui permettait de guérir les malades. Le doigt de Dieu était agissant à travers des apôtres parce que Jésus avait donné de son autorité à ses apôtres. Mais ses apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit comme c'était pour être annoncé et distribué selon la Nouvelle Alliance à travers de Jésus. À un moment donné, Jésus, en finissant son ministère, il est mort, comme on le sait. Il est mort comme qui avait été annoncé qu'il était pour mourir, comme lui-même l'avait annoncé à ses disciples que le Fils de l'homme serait mis à mort, puis le troisième jour il ressusciterait, puis comme qu'il y avait plein de prophéties qui annonçaient la mort de Jésus, puis qu'il était pour mourir pour le pardon de nos péchés. Là, Jésus est ressuscité. Trois jours après, Jésus est ressuscité. Puis Jésus a commencé à apparaître à ses disciples. Puis la Bible nous dit que Jésus a apparu pendant 40 jours à ses disciples, après qu'il soit mort, après qu'il soit ressuscité. 40 jours de temps, il les apparaissait régulièrement, puis il leur parlait, puis il leur expliquait les choses du royaume de Dieu. Le moment le plus précis que je veux vous poser, c'est dans Jean 20 au verset 21. C'était pendant que Jésus était dans ses 40 jours, pas à la fin de son 40 jours, pendant ses 40 jours, il était peut-être rendu à la 25e journée. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que je vais vous l'expliquer avec certains versets. Jésus a fait quelque chose de spécial à ses disciples pendant qu'il était avec eux. Jésus a distribué le Saint-Esprit comme il l'avait promis. Pour que le Saint-Esprit puisse les accompagner dans leur marche, que le Saint-Esprit puisse accompagner les disciples dans leur cheminement, afin que les disciples puissent marcher sur la terre selon la volonté de Dieu, parce que Jésus l'avait dit, quand vous allez le recevoir, le Saint-Esprit, lui, ce Saint-Esprit-là, il va vous conduire dans toute la vérité. Puis il va répéter ce qu'il a entendu, en parlant des paroles de Jésus, puis de ce que le Père a annoncé, puis que le Saint-Esprit était pour enseigner ses disciples. Puis Jésus l'a répandu, ce Saint-Esprit-là. Dans Jean 20, 21, ça dit, « Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. » Là, il leur dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » À partir de ce moment-là, les disciples ont reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Ils ont reçu l'Esprit qui leur permettrait de pouvoir approfondir la parole de Dieu, approfondir leur communion avec Dieu le Père. Parce que Jésus leur avait dit, quand le Consolateur va être venu, l'Esprit de vérité, il va vous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que les disciples étaient en connaissance de cause d'une certaine, étaient en connaissance dans leur conscience d'une certaine quantité de la vérité, parce que Jésus leur enseignait plein d'affaires, mais ils n'avaient pas tout enseigné. Puis c'était la job du Saint-Esprit d'amener les disciples dans une profondeur encore plus grande de la compréhension, de connaître la vérité, toute la vérité, puis de l'expérimenter. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Puis le fait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est là qu'est née l'Église du Seigneur. Parce que l'Église du Seigneur, le corps de Christ, c'est que Christ est la tête, puis chacun de ceux qui forment son corps, on est son corps sur la terre. Nous sommes ses représentants. On est comme une partie de Jésus sur la terre. Jésus est rentré en nous par le Saint-Esprit, puis on est comme ses représentants sur la terre. Pourquoi j'ai dit que c'était pas à la fin de son discours qui est pendant les 40 jours? Parce que là, j'étais dans Jean 20, versets 21 à 23, mais au verset 26, ça nous dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Là, c'est pour nous dire que, après que Jésus ait soufflé sur eux et qu'il ait reçu le Saint-Esprit, mais il y a encore, parce que Jésus est apparu pendant 40 jours, puis il reste encore un autre d'autres événements qui est arrivé 8 jours après. Ça veut dire que Jésus, en fin de compte, il restait peut-être encore 10 jours à apparaître à ses disciples. Vous allez comprendre ma logique pourquoi que je mentionne ces termes-là, de ces 10 jours-là. La question que je vais poser, là, les disciples n'étaient pas en connaissance de cause de toute la révélation de Dieu en profondeur, mais ils en avaient appris beaucoup pendant le temps qu'ils étaient avec Jésus. Puis Jésus leur avait dit qu'ils recevraient le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit leur permettrait d'approfondir la parole de Dieu. Puis là, Jésus leur apparaît après sa résurrection, peut-être 20-25 jours plus tard, puis il souffle sur eux puis leur dit « Recevez-les le Saint-Esprit ». Puis là, ils l'ont reçu. Mais apparemment, selon ce qu'on regarde dans le texte, il ne s'est pas passé grand signe extérieur. Il ne s'est pas passé de manifestation surnaturelle. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit comme Jésus les avait enseignés. Est-ce que les disciples avaient compris là, à ce moment-là, quand que Jésus a soufflé sur eux, que le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit, c'était suffisant pour qu'il y ait un ministère efficace. Parce que Jésus leur avait dit, Vous allez recevoir le Saint-Esprit, puis il va vous conduire dans toute la vérité. Il a soufflé sur eux. Tant que les disciples ont reçu ce souffle-là de l'Esprit, puis qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, pensez-vous qu'à ce moment-là, que les disciples se sont dit, « Bon, la promesse de Dieu est accomplie, la promesse de Jésus est accomplie, on a reçu le Saint-Esprit, tout est beau, on n'a plus rien à faire, tout est correct, on a juste à laisser les choses aller, puis ça va se placer tout seul. » Est-ce que c'est ça qui serait la pensée des disciples à ce moment-là? Je vais vous lire deux autres passages qui sont comme deux passages qui sont arrivés encore dans la période que Jésus leur a apparu pendant les 40 jours, mais à la fin du 40 jours. Luc 24, 49. Ça, ce passage-là, c'est arrivé après que Jésus ait soufflé sur eux, puis qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Jésus leur a dit quelque chose de plus. À la fin, juste avant de monter comme en ascension, puis disparaître dans le ciel à la vue de ses disciples. Luc 24, verset 49. Jésus parle encore à ses disciples avant de monter. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais il mentionne bien, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Là, il les conduisait jusqu'à Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Là, on voit que c'est la 40e journée que Jésus était avec eux et la dernière fois que Jésus leur apparaissait comme dans ce moment-là. C'est arrivé à d'autres moments que Jésus a apparu que dans des visions, mais comme apparaître régulièrement, c'était pendant 40 jours que Jésus les apparaissait. Qu'est-ce qui est arrivé à cette promesse-là que Jésus, après qu'il ait soufflé sur eux, qu'il ait reçu le Saint-Esprit, Jésus lui fait encore une autre promesse. Là, il ne parle pas juste de recevoir le Saint-Esprit en eux, c'est de recevoir le Saint-Esprit sur eux. Puis ça, c'est qu'est-ce que son Père, à Jésus, leur avait promis. Quand est-ce que le Père a promis ça? Dans la promesse de Joël. Où ce que Dieu avait dit, que dans les derniers temps, il répandrait de son esprit, puis que les gens prophétiseraient, que les gens auraient des songes, des visions, puis qu'il se passerait des miracles sur la terre. Ça, le passage qu'on vient de lire dans Luc au verset 24, on peut relire la même affaire dans Acte 1-8. Allons voir Acte 1-8. C'est parce qu'on le sait que l'évangile de Luc, c'est Luc qui l'a écrit. Luc, c'est un médecin. Puis il suivait Paul dans ses voyages missionnaires. C'est lui, Luc, qui a écrit l'évangile de Luc. Il a fait une recherche exacte de tout ce qui était écrit par des témoins oculaires, ceux qui étaient présents. Puis il a tout pris les témoignages, puis il a écrit l'évangile. Puis il a aussi écrit les actes des apôtres. C'est le même gars qui a écrit Luc, qui a écrit les actes. Les deux passages que je vous lis là, c'est un dans Luc, puis l'autre dans Actes. C'est le même gars qui a écrit les deux histoires, les deux passages, mais dans deux livres différents. Là, on va lire Actes 1-8, qui est la même chose que Luc 24. Dans Actes 1-8, ça nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit ça, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba de leurs yeux. Et comme qu'il avait les regards fixés vers le ciel, là, ça en dit un petit peu plus long dans ce texte-là, et pendant qu'il s'en allait, il y a deux hommes qui sont vêtus de blanc qui ont apparu. Il y a deux anges qui ont apparu. Puis il dit, Ô homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Là, il lui dit, c'est Jésus qui est monté vers le ciel, il va revenir de la même manière qu'il est monté. Là, on vient de lire que dans Jean, au chapitre 20, Jésus flut sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça, c'était au bout de 20-25 jours après sa crucifixion, qu'il s'est ressuscité. Après ça, au bout de 40, il dit, vous allez recevoir encore le Saint-Esprit. Mais là, le Saint-Esprit va venir sur vous. Puis à partir du moment que le Saint-Esprit va venir sur vous autres, là, vous allez être des témoins. Quand on parle d'être un témoin, là, c'est quoi être un témoin? Bien, un témoin dans le sens que là, je veux vous expliquer. Je sais pas, vous avez déjà vu ça, un interrupteur, une switch on-off pour allumer la lumière, mais dans une compagnie, là, quand il y a une switch on-off, il y en a qui ont une lumière après la switch. Quand tu mets ça on, il y a une lumière qui s'allume pour te dire que la lumière dans le frigidaire, mettons, est allumée. Il y a une lumière qui s'est allumée quand tu es sur bord ici du mur pour t'avertir que la lumière est allumée l'autre bord. Ils appellent ça une lampe témoin. C'est une lumière témoin. Ça t'affiche qu'il y a de l'éclairage l'autre bord. Même si tu ne vois pas l'autre bord, tu sais qu'il y a de l'éclairage l'autre bord parce que la lumière est allumée sur le bord ici.
Fait que si la lumière brûle l'autre bord, la petite lumière brûle-tu?
Non. Fait que c'est comme deux lumières séparées. Mais quand même, l'idée est bonne. Mais nous autres, là, on est un petit peu ça au point de vue de Dieu quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu deviens comme un témoin. Une lampe témoin. Quand la lumière est allumée, là, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ta vie devient un témoignage. Jésus nous a dit ça quand il serait revêtu de la puissance d'en haut. Il n'a pas dit ça quand il a soufflé sur eux pour recevoir l'Esprit. Recevoir l'Esprit, t'es sauvé. Tu fais partie du corps de Christ. Mais si tu veux vraiment être un témoin, une lampe témoin, comme si tu serais alimenté d'une puissance qui t'illumine. Parce que c'est ça que ça dit dans le texte. Il y a une puissance, la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur vous et vous serez mes témoins. Une fois que tu as goûté à cette puissance-là et que tu entretiens de demeurer dans cette puissance-là, tu deviens un témoin. T'éclaires les autres sans que tu t'en rendes compte. La puissance de Dieu va agir à travers de toi pour toucher les gens qui t'entourent. C'est pas juste le fait de l'avoir reçu, Saint-Esprit. C'est quand que la puissance du Saint-Esprit est sur toi que tu es un témoin. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Quand ils ont entendu cette deuxième promesse-là, d'une possibilité de recevoir la puissance de Dieu qui viendrait sur eux et qui serait des témoins. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Verset 13. C'est tout de suite après acte 1, 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Où se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous, verset 14, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Jésus leur avait dit, attendez à Jérusalem, jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est ce qu'il avait dit. Voyons, où est-ce que j'ai lu ce passage-là?
C'est pas dans Jean?
Non. OK. Dans Luc 24, 49, quand Jésus, avant qu'il monte au ciel, là, il lui a dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est le verset 49. Attendez Attendez jusqu'à temps que soyez revêtus de cette puissance-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient, disciples? Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Ils ont resté dans la ville, ils ont resté dans la chambre haute. Puis ils priaient, puis ils priaient, puis ils priaient. Puis ça nous dit là, qu'ils n'étaient pas juste ces 12-là. Là. Ils étaient avec les femmes, puis Marie, la mère de Jésus, puis avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120 personnes. Toute une réunion de prière. 120 personnes qui prient, qui prient, qui prient. 120 personnes qui prient. C'est à quoi leur prière, en fin de compte? Sinon, de prier, d'être revêtu de la puissance d'en haut. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples. Attendez d'être revêtu de la puissance d'en haut. Les disciples se sont mis à prier. Ils ont prié jusqu'à quand, pensez-vous, qu'ils ont prié? Jusqu'à temps qu'ils le reçoivent, parce que c'est ça qui est arrivé dans Acte 2. Pendant qu'il était en train de prier, là, hein, il y a comme un vent impétueux qui s'est fait dans la maison. C'était une chambre, une grande pièce, là, il y avait 120 personnes réunies, c'était un grand local, là. C'était pas juste une maison, c'était un grand local, il y avait 120 personnes, ça ne nous dit pas que le local était plein, là. Il y a peut-être plus de place que ça. Mais 120 qui intercédaient, puis à un moment donné, là, il y a eu comme un vent, le lieu où ce qui était assemblé, il a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre, puis gros vent, puis là, des langues de feu qui ont descendu du ciel. Ils se sont posés sur chacun de ceux qui étaient là. 120 langues de feu qui ont déposé sur les 120 personnes. Ils se sont toutes mis à parler en langue et à prophétiser. Quand tu reçois la puissance de Dieu, il y a des manifestations surnaturelles qui se produisent, des miracles. Le lieu tremble, le vent comme un bruit d'un gros vent que dans la maison, puis là, les langues de feu qui se sont posées, ça s'est mis à parler en langue, puis il y avait de l'air d'une gang de gars sous. C'est ça que ça dit dans le texte. Le monde, quand ils les ont vus, ils sont pleins de vin doux. Ils ont commencé à rire des disciples, il y avait de l'air d'une gang de gars sous, mais ils étaient ivres du Saint-Esprit, remplis, revêtus de la puissance d'en haut. Ils ont prié jusqu'à temps de l'obtenir, comme ça avait été annoncé par qui? Par Joël, une promesse du Père dans l'Ancien Testament, qui avait dit que dans les derniers temps, il répandrait son esprit sur toute chair. Puis là, ça s'est accompli cette journée-là. Il y avait sûrement des vieillards dans cette réunion de prière-là. Il y avait sûrement des jeunes hommes, il y avait sûrement des servantes, il y avait sûrement des gens normaux, les disciples étaient là. Puis tout le monde a été revêtu de la puissance de Dieu. La promesse venait de s'embarquer. C'est ça que Pierre a commencé à prêcher, puis a expliqué. Ce que vous venez de voir, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. C'est ça qu'il dit dans Acte 2. Ça dit que quand ils ont reçu la puissance de Dieu, là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils n'ont pas juste reçu l'Esprit, ils furent remplis de l'Esprit. C'est ça qui est le plus étonnant. Puis ça, tantôt, j'ai dit, quand que les disciples ils se sont fait souffler sur eux et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on pense que les disciples se disaient, « Ah, ben là, on a reçu le Saint-Esprit, il nous a soufflé sur nous autres, c'est suffisant pour que notre ministère soit efficace? » Jésus, quand il leur a apparu, lui a dit, « Non, c'est pas suffisant. » Vous n'avez pas juste besoin de le recevoir, le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'en être rempli et revêtu pour que vous soyez des témoins. Pour que vous soyez d'un ministère efficace, vous avez besoin d'être rempli et revêtu de la puissance, pas juste le recevoir. Maintenant, qu'est-ce que Paul, lui, qu'est-ce que Paul a compris de tout ça? Qu'est-ce que Paul a, suite à, dans ses enseignements, dans Éphésiens 5, 18, qu'est-ce que Paul nous enseigne face à cette révélation-là? Est-ce quelqu'un qui ose dire une réponse? Éphésiens 5, 18.
Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche.
Soyez au contraire
remplis de l'esprit.
Amen. Voyez-vous, c'est pas juste le fait de dire « Ah, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit quand je me suis converti, v'là 20 ans. » C'est pas suffisant. Si on veut que notre vie change quelque chose autour de nous, il faut pas juste l'avoir reçu, il faut en être rempli. C'est ce que ça nous dit. Enivrez-vous pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, c'est comme à la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient puissamment sur toi, t'es rempli, t'es revêtu, t'es équipé, puis il se passe quelque chose, il y a des signes qui se produisent, parlant en langue, prophétie, des guérisons, des miracles, la puissance de l'Esprit à l'agir. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Premièrement, la question que je vais vous poser, croyez-vous que cette promesse-là est encore pour aujourd'hui? De recevoir le revêtement de puissance, de recevoir le Saint-Esprit, mais pas juste le recevoir, en être rempli, d'en être revêtu, et de manifester les signes qui étaient écrits dans Joël, qui répandrait son esprit, que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, des jeunes gens des visions, ses serviteurs et servantes. Qu'est-ce qui est nécessaire que j'aie pour que je puisse prophétiser, puis voir des songes, puis voir des miracles dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir?
D'être rempli
du Saint-Esprit. Comment puis-je avoir le Saint-Esprit? Comment puis-je en être rempli?
Faut le demander.
Premièrement, là, si on ne l'a jamais reçu, le Saint-Esprit, faut que tu viennes à Jésus. Parce qu'il faut que tu passes par être pardonné de tes péchés avant de recevoir le Saint-Esprit. Faut que tu passes dans une attitude repentante. Que tu dises, je le sais, Seigneur, que je pécheresse ou je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur. Je le regrette que j'ai fait. Je te demande pardon. Je le sais que je suis incapable d'être pardonné par moi-même. Je le sais que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur. Je sais que tu me sauves en me pardonnant mes péchés puis en me purifiant par ton sang. Une fois que tu as passé par cette étape-là, en demandant pardon, là, le Seigneur te pardonne. Là, tu dis au Seigneur, maintenant, Seigneur, viens et règne sur moi. Prends ma vie, je te la donne. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et conduis-moi dans toute la vérité. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit va rentrer dans la personne. Puis la vie de la personne va commencer à changer. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que tu es devenu une nouvelle créature. Toute ta vie est rendue, ta vie ancienne s'est rendue du passé, puis maintenant, il y a une vie nouvelle qui commence, en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais là, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Tu n'es pas nécessairement rempli et revêtu de la puissance. Ça, c'est quelque chose que tu as une autre expérience dans le Saint-Esprit, qu'il faut que tu demandes à Dieu d'être rempli, revêtu, équipé, recevoir tous les dons spirituels, pour que la puissance de Dieu passe à travers ta vie, Que tu puisses, par moment, d'imposer les mains au malade, le malade va être guéri. Que tu puisses, à un autre moment, prendre autorité dans le nom de Jésus, chasser un démon dans personne, d'une autre personne, ou même quelque chose qui t'attaque. Chasser les démons. Un moment donné, d'être à l'écoute de Dieu, d'avoir une parole qui vient de Dieu, que c'est une prophétie qu'il faut que tu dises pour parler aux gens qui t'entourent, puis ça va toucher le cœur de quelqu'un, ou des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des parlants en langue avec interprétation, des signes là, ou des miracles, comme des événements que l'eau se sépare, puis que tu marches sur la terre ferme, ou que d'une multiplication de pain. C'est des miracles que Jésus a fait, que les apôtres ont fait, sorte de miracle que on peut vivre aujourd'hui par la puissance de Dieu en autant qu'on est rempli et revêtu de sa puissance. C'est pas suffisant de dire j'appartiens à Jésus. Cherche à être rempli et revêtu de sa puissance pour la vivre, sa puissance. C'est quoi le moyen pour l'avoir, la puissance? Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Tous les jours, ils étaient en prière. Combien ça a pris de jours avant qu'ils le reçoivent? Pas une journée, pas deux journées, pas trois journées. Des fois, au bout de trois ou quatre jours, on est découragé, on arrête de prier. La Bible nous dit qu'ils ont prié pendant 10 jours. Parce que c'est le 50e jour, le jour de la Pentecôte, qui veut dire 50. C'est que 50 jours après Pâques, qui ont reçu la puissance d'en haut, que le Saint-Esprit est descendu, qui ont été revêtus de la puissance, puis ont commencé à parler en langue, et ainsi de suite. Ce que je veux vous encourager, qui était le titre de mon message, il faut persévérer dans la prière pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Quand il dit Paul, soyez au contraire remplis de l'Esprit, c'est un ordre qu'il nous donne, soyez, c'est un ordre dans le texte grec, puis ça nous dit, soyez remplis de l'Esprit. C'est quelque chose qu'on doit être rempli et revêtu. C'est quelque chose qu'on doit persévérer, rechercher, puis continuellement le rechercher, puis pas juste l'avoir reçu une fois. Le lendemain aussi, il faut que je le sois. Le surlendemain, la semaine après, un an après, 10 ans après, 50 ans plus tard, c'est encore sur la planète. Continue à chercher la puissance d'en haut. Amen.